France Culture.
Talmudique. Henri Atlan, bonjour.
Bonjour.
Henri Atlan, c'est un grand plaisir et un honneur de vous recevoir dans Talmudique. Vous êtes né en 1931 à Blida en Algérie. Vous êtes médecin. Vous avez été chef de service à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris, fondateur et ancien directeur du centre de recherche en biologie humaine de l'hôpital universitaire Hadassah à Jérusalem. Vous êtes professeur émérite de biophysique et directeur d'études en philosophie de la biologie à l'EHESS. Vous êtes considéré comme l'un des représentants importants de l'école de pensée juive de Paris et vos recherches, tant scientifiques que celles menées dans le domaine hébraïque, vous ont assuré un renom international. Certains de vos ouvrages, et je pense en particulier aux deux tomes des Étincelles de Hasard, respectivement en 1999 et 2003, tout comme le dernier intitulé « Pour un athéisme éclairé », sur lequel nous allons revenir, se présente en une mise en page talmudique où les notes et les commentaires qui les accompagnent ne sont ni en bas de la page, ni en fin de volume, mais en démarche de dimensions variables au fil des ouvrages. Henri Méchonique disait « Dans le Talmud, la circularité du commentaire autour du texte, qui est déjà lui-même répétition d'un texte présent-absent, figure la transmission même. » Fin de citation. Est-ce dans la volonté de suggérer la possibilité d'un Talmud moderne que vous avez choisi de nous offrir ce spectacle de la page qui, avec le temps, est devenue l'une de vos signatures, Henri Atlan?
Eh bien, en fait, je dois vous dire que ce serait plutôt le contraire. C'est-à-dire que, confronté à un manuscrit d'un livre avec des notes très longues, quand c'est arrivé pour la première fois, à propos d'ailleurs d'un livre précédent, à ce moment-là, j'ai eu l'idée, au moment de la fabrication du livre, de proposer de ne pas les mettre à la fin du livre, parce qu'elles étaient trop longues, mais de les mettre autour du texte, exactement comme dans le Talmud depuis pratiquement toujours. Voilà.
Mais qu'est-ce que ça ajoute à la pensée que le commentaire soit autour et pas en dessous ou à la fin du livre?
Alors là, ce que ça ajoute à la pensée, ça je ne saurais pas vous le dire. Par contre, tout ce que je sais, c'est que ça, à mon avis, ça a ajouté beaucoup à la lecture. Bon, j'ai réussi à convaincre mes éditeurs à partir de, en effet, des Étincelles de Hasard. En réalité, à partir d'un jeune éditeur italien qui traduisait et qui a accepté, lui, tout de suite, d'effectuer cette page. Et après, bon, j'ai réussi à convaincre d'abord Le Seuil pour le poser, puis évidemment maintenant Odile Jacob aussi.
Alors ça crée une intertextualité graphique qui fait qu'en vous lisant, on ne peut pas ne pas penser au Talmud.
Pour ceux qui le connaissent, oui.
Alors je vais vous raconter une histoire que je vous demanderai de commenter ensuite. Un maître demanda un jour à ses disciples « Quelle est, selon vous, la plus grande catastrophe qui est arrivée au peuple juif dans son histoire ?» Les 400 ans d'esclavage en Égypte, dit un premier disciple. Non, dit le maître. La destruction du temple, proposa un second. Non, dit le maître. L'exil, tenta un troisième disciple. Non, dit le maître. Ce n'est ni l'exil, ni la destruction du temple, ni l'esclavage. La plus grande catastrophe qui arriva au peuple juif, dit le maître, c'est quand le judaïsme devint une religion.
Le fait que le judaïsme soit devenu une religion, c'est en effet une catastrophe pour l'histoire du judaïsme, justement. Tout simplement, en effet, parce qu'il existe plusieurs sortes de religions. Je sais que cette chose-là n'est pas courante encore, mais elle le devient parce que toute une génération d'historiens des religions du XXe siècle, justement, eh bien, ont réalisé qu'en effet, il existe au moins deux grandes sortes de religions. Des religions à profession de foi, auxquelles l'appartenance dépend d'une foi, enfin d'une foi très précise, c'est-à-dire de dogme en réalité, qui apparaissent maintenant comme étant uniques et spécifiques de deux seules religions, le christianisme et l'islam. Et par exemple, on ne peut pas se dire chrétien et ne pas croire en la Trinité, etc. De même, on ne peut pas, le credo chrétien implique cela. Et de même, on ne peut pas se dire musulman si on n'adhère pas à la shahada, c'est-à-dire le credo musulman. Le judaïsme est considéré par ces historiens comme faisant partie de l'autre catégorie de religions, c'est-à-dire au même titre que toutes les autres religions, le bouddhisme, le shintoïsme, les animismes, le chamanisme, tout ce qu'on veut, qui ne dépendent pas justement à l'adhésion à des dogmes ou à des professions de foi. Et donc le judaïsme fait en effet partie de cela aux yeux et aux raisons de cette nouvelle génération d'historiens.
Ça s'appelle des religions ritualistes.
Exactement. Mais ce qui n'implique pas d'ailleurs que ces religions ritualistes soient dépourvues de profondeur philosophique et littéraire et autres.
Pour bien comprendre, contrairement au christianisme et à l'islam, le judaïsme n'a pas besoin de croyances en Dieu.
Entre autres, en effet. Oui. En effet. D'ailleurs, là, une des preuves de cela, c'est que dans le Talmud, précisément, on décrit ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui n'est pas juif et qui veut devenir juif, autrement dit, qui voudrait se convertir. Un certain nombre de questions auxquelles il doit répondre, qui concernent beaucoup plus des comportements que des croyances. On ne lui demande pas de croire en quoi que ce soit.
Ça me rappelle une anecdote que rapporte Lévinas à propos de Hannah Arendt, qui disait à la radio, en France, à la fin de la guerre, elle racontait que quand elle a voulu faire sa bat mitzvah, elle a été voir le rabbin de la ville où elle était, à Königsberg, et elle a dit « Rabbin, je ne peux pas faire ma bat mitzvah parce que je ne crois pas en Dieu ». Et le rabbin lui a répondu « Mais qui vous le demande ?»
Oui, absolument.
Et c'est vraiment, je crois, quelque chose, on a du mal à comprendre cette idée, c'est que dans le judaïsme, on n'a pas besoin de croire en Dieu, ce n'est pas une nécessité pour faire partie du peuple juif.
Dans mon livre sur les croyances, j'ai appelé le judaïsme comme une demi-religion. Parce qu'il a gardé, à cause de Maïmonide, un aspect religieux, puisqu'il a voulu imposer, mais il n'a pas réussi, les croyances dans ses professions de foi comme nécessaires. Il n'a pas réussi à imposer ça.
Est-ce que c'est pour cela que vous dites que le judaïsme est la troisième religion et non
Absolument.
Pas la première? Pourquoi le judaïsme est la troisième religion?
Eh bien, à cause de ça, je peux parler de Maïmonide, c'est lui en étant le créateur de la religion juive, précisément.
C'est-à-dire?
Le créateur du judaïsme en tant que religion,
oui.
Dans la mesure où il a voulu imposer la croyance en l'existence de Dieu, son unicité et sa non-corporité, surtout ce qui a été contesté par beaucoup, beaucoup de penseurs juifs, y compris des kabbalistes.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où le christianisme naît avec saint Augustin au IVe siècle, qu'il y a l'islam...
L'islam, en rivalité avec le christianisme, veut se présenter comme lui la vraie religion, sans rejeter complètement le christianisme, ni le judaïsme d'ailleurs tel qu'il... Mais en tout cas, il se présente lui à nouveau comme une religion universelle. Alors ça, évidemment, c'est tout le problème des monothéismes. À partir du moment où il y en a beaucoup, ça devient problématique, quoi. Donc il y a au moins deux qui se sont disputés le statut de la vraie religion. Et après, le judaïsme aussi, surtout développé en terre d'islam et écrit pour une grande part en arabe, eh bien, a senti en quelque sorte le besoin d'être en rivalité avec les deux précédentes et pour s'instituer en nouvelle religion.
Le judaïsme à profession de foi, créé par Maïmonide,
oui.
C'est la troisième religion après le christianisme.
Absolument.
Et
l'islam. Oui.
Alors Wittgenstein aimait à dire que penser... c'est trouver les mots justes, mais parfois les mots perdent de leur sens. Avec l'usage et l'usure du temps, il faut alors retirer de la langue une expression et la donner à nettoyer pour pouvoir ensuite la remettre en circulation. Fin de citation. Et j'ai l'impression, Henri Atlan, que c'est ce que vous faites en des variations autour de l'athéisme. Vous nous offrez les résultats de ces recherches en un ouvrage passionnant qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, intitulé « Pour un athéisme éclairé, l'hypothèse inutile ». D'où vient la formule « l'hypothèse inutile » ?
Ah bon, alors ça c'est très simple, parce que moi, je l'ai rencontré et adopté à cause d'une histoire, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une légende ou une histoire vraie, qui raconte que Napoléon, qui lui-même avait une tendance scientifique assez forte, avait interrogé Laplace, qui était un grand mathématicien, physicien de l'époque, pour lui demander où en était la science à son époque. Ce que Laplace a fait, et alors Napoléon lui pose à ce moment-là la question, mais où est Dieu dans tout cela? Et Laplace lui répond, sire, nous n'avons plus besoin de cette hypothèse.
Est-ce que le fait que nous n'avons plus besoin de cette hypothèse fait en sorte qu'il y a souvent eu un conflit entre la science et la foi, Et l'anecdote de la place est très parlante en ce sens que ça vous amène à la formule d'un athéisme éclairé. On peut se demander, éclairé par qui et par quoi, Henri Atlan ?
En fait, ça vient aussi d'une asymétrie qui est assez évidente, mais que je n'ai pas vu relever quelque part, entre deux aspects de l'Occident. Le langage scientifique, celui qui s'est développé pendant les deux derniers siècles, si vous voulez, et qui est à la source de la science moderne, après toutes les modifications éventuelles qui se sont produites pendant ces deux derniers siècles. Il n'en reste pas moins que, parce que bon, ce qu'a dit Laplace là, ben moi je le reprends à mon compte pour la science moderne. Or, il se trouve que cette science moderne a été produite en Occident essentiellement. Et il se trouve que ce même Occident, eh bien, sa culture a été évidemment essentiellement chrétienne, aussi bien en Europe et aux États-Unis, enfin en Amérique en général. Et à partir de là, il se trouve que l'Occident en tant que culture, eh bien, est une partie de l'humanité seulement. Autrement dit, une sorte de province dans l'humanité. Alors qu'au contraire, le langage scientifique est totalement universel. Alors ça pose un problème, parce que c'est le seul langage universel qui réussit. C'est-à-dire aussi bien l'espéranto, volapük, etc., n'ont pas marché. Et ça, oui, le langage scientifique est vraiment universel, en ce sens que, eh bien, dans les colloques, les publications, etc., des chercheurs de tous les pays et de toutes les langues, justement, arrivent à se comprendre. Parce qu'ils parlent une langue universelle. Bon, alors, cette langue universelle, autrefois, c'était le latin. Après, il y a toute une période où c'était le français. Et puis, actuellement, c'est l'anglais. Bon, alors, évidemment, c'est pas l'anglais de Shakespeare. C'est un anglais basique qui permet, malgré tout, de correspondre. Et de telle sorte que ce langage-là est devenu universel concrètement, en ce sens qu'il exprime une science qui, elle-même, est universelle. Et c'est dans ce langage-là que le mot « Dieu » a disparu. C'est-à-dire, aujourd'hui, ben, vous ne trouverez jamais le mot Dieu, sauf parfois de façon ironique ou comme une plaisanterie. Mais ça ne joue pas un rôle dans le développement, en quelque sorte, de ce qu'on veut dire en matière de science. Et c'est en ce sens-là qu'on peut reprendre à notre compte la remarque de Laplace, même si ça date de deux siècles.
Le mot important ici, c'est que l'athéisme éclairé par le provincialisme, c'est ça que vous voulez dire ? C'est-à-dire par la prise de conscience,
oui, c'est
que,
ça.
Que la dimension du divin,
oui,
n'est qu'une partie ou de l'humanité, que la plus grande partie de l'humanité n'a pas ce concept de,
absolument,
de,
oui,
de Dieu, de divin, de religion.
Et c'est la raison pour laquelle l'athéisme en question, qui a été une réaction en quelque sorte devant la science elle-même et qui a posé des problèmes en ce sens qu'elle a créé d'une certaine façon ou entretenu un athéisme. Tout cela est provincial, d'où la définition que je propose d'ailleurs sur qu'est-ce que j'entends par athéisme éclairé. Eh bien, l'athée éclairé, c'est que son athéisme est aussi provincial que le Dieu auquel il ou elle ne croit pas.
On peut se demander si cet athéisme-là peut être compatible avec, par exemple, dans le judaïsme, une pratique des commandements. Ah ben... Est-ce que l'on peut être athée, c'est-à-dire athée éclairé, comme vous le dites, en même temps en pratiquant le judaïsme dans sa composante, on va dire, classique, voire orthodoxe?
Ben absolument, et c'est de dont nous avons déjà parlé en commençant, à savoir que la croyance en Dieu n'est pas nécessaire pour être juif, y compris en obéissant aux commandements de la loi. C'est d'ailleurs comme toutes les religions ritualistes, précisément. Alors après, on peut évidemment être d'accord avec tel ou tel ou tel aspect, si vous voulez, de ces commandements. Les commandements peuvent être considérés comme des comportements, tout simplement, et comme évidemment avoir des fondations diverses, y compris des fondations éthiques, des fondations politiques, mais peu importe, si vous voulez, tout ça n'est pas ce qui va définir l'appartenance.
Nous sommes en train d'entendre « Crépuscule du soir », une œuvre de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, avec la maîtrise de Radio France, sous la direction de Morgane Jourdain. Pourquoi une œuvre de Kaija Saariaho? Vous allez me demander pourquoi cette œuvre? Parce que cette compositrice finlandaise a composé une œuvre inspirée de votre ouvrage « Entre le cristal et la fumée » et en reprend à la fois le titre, ou presque, puisque le titre de son diptyque s'appelle « Du cristal à la fumée » et elle en sort un disque en 1993 qui reprend cette pièce à laquelle elle ajoute sept papillons, Nymphéa et Ondine, sous la direction de Desa-Pekka Salonen et la participation du Kronos Quartet. Je me suis demandé, est-ce que vous aviez rencontré Kaija Saariaho à cette occasion et quel effet ça vous a fait, ou ça vous fait maintenant, si vous le découvrez, qu'une compositrice finlandaise a composé une pièce, ou plusieurs, sur votre livre « Entre le cristal et la fumée »
Alors,
Henri Atlan.
Je dois dire que j'en avais vaguement entendu parler, mais j'avais pas entendu quelques musiques que ce soit à l'époque. Et donc, vous m'avez fait maintenant découvrir cette musique. Alors, bon, j'apprécie, je suis surtout très honoré.
Mais pourquoi, d'après vous, a-t-elle été sensible à cette idée? Parce qu'elle en parle dans la présentation à la fois du disque et du concert. Elle était impressionnée et inspirée par le titre « Entre le cristal et la fumée ». Qu'est-ce que ça représente dans votre pensée, le cristal, et qu'est-ce que la fumée, et pourquoi la vie est dans cette dialectique?
Oui, moi, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans le livre en question, comme représentation de la matière du vivant, qui, d'un côté, l'organisation du vivant a pu être comparée à celle des cristaux, mais en réalité, ça ne marche pas parce que les cristaux sont rigides et quand ils sont dissous, ils deviennent liquides précisément. Mais il y a à l'autre extrémité qui est l'état gazeux, c'est-à-dire celui de la fumée. Et en effet, enfin, d'ailleurs, à l'époque, j'avais été influencé par un biologiste qui décrivait un phénomène biologique au niveau cellulaire qui était tel qu'on ne pouvait l'observer vraiment que quand il était vivant, quand la cellule était vivante. Et que si on voulait l'observer en fixant l'image, alors la structure disparaissait. Et il disait que c'était une structure qui se trouvait entre un cadavre et un fantôme. Et pour moi, cette image m'a plu beaucoup et je l'ai adaptée en disant, d'une part, la rigidité du cristal et d'autre part, l'évanescence, si vous voulez, de la fumée. C'est ça, l'état matériel, ne serait-ce que d'une cellule vivante où il y a beaucoup d'eau, mais il n'y a pas que de l'eau. Et puis, donc, c'est entre, en effet, un état cristallin, mais qui n'est pas figé, justement, donc qui n'est pas un cristal. Et ce n'est pas non plus les volutes, si vous voulez, d'une fumée ou d'un gaz, dans la mesure où il y a quand même une structure fixe. Hein, voilà.
Ça peut être aussi pensé pour la pensée, justement. Il y a des pensées qui sont figées comme des cristaux, et puis il y a des pensées qui sont justement plus dynamiques. On peut retrouver un peu l'opposition qu'il y a entre Parménide et Héraclite. Parménide, l'être, c'est l'être, et Héraclite, c'est le mouvant et le mouvement du fleuve, par exemple.
Oui, alors justement, oui, en effet. Mais est-ce qu'il existerait une matière qui serait décrite en se fondant sur, à la fois, Parménide et Héraclite?
Ben justement, la matière elle-même, peut-être qui est la vie, elle n'est jamais figée entièrement comme un cristal ou comme Parménide, elle n'est jamais constamment en mouvement, mais elle est dans cette dialectique, ou dans cette hyperdialectique un petit peu, justement aussi comme la pensée. Peut-être comme dans le Talmud, où il y a une Torah écrite, qui est une Torah qui est complètement fixe, figée, on ne peut pas en changer, ne serait-ce qu'un iode, ou un iota, comme on dirait en grec. Pourtant, il y a un commentaire incessant, qui est comme la fumée, qui est en mouvement, et peut-être que la dialectique entre la Torah écrite et la Torah orale, c'est quelque chose qui se joue entre le cristal et la fumée.
Oui, on peut dire ça. Par contre, j'ai trouvé, moi, un commentaire d'un rabbin contemporain, disons, kabbaliste, qui dit ça en hébreu, évidemment sans se référer au cristal et à la fumée, mais qui veut dire la même chose, en parlant de Chai Vekayam, où Chai, c'est la vie au sens de mouvement, mais seulement mouvement, en quelque sorte, et renouvellement tout le temps. Et Kayam, c'est quand même au sens de qui persiste, quoi. Voilà.
Oui.
Et donc, il y a à la fois les deux.
C'est un enseignement du Rav Kook.
Oui, absolument.
Oui. Dans ce que nous avons dit précédemment, on s'est aperçu que cette science qui est devenue universelle a exclu la notion de Dieu, donc la notion de religion. Pourtant, la foi est loin d'avoir disparu, elle revient sous forme de substitut. Et vous insistez dans votre livre sur ce retour de la foi, même si ce n'est pas la foi religieuse, mais c'est une forme de foi. Parlez-nous de ces substituts, Henri Atlan.
Alors, tous ces substituts, justement, sont des substituts. C'est-à-dire qu'en réalité, ils fonctionnent en Occident, essentiellement. C'est-à-dire qu'ils perçoivent un vide, en quelque sorte. Si la pensée, si les sentiments sont réduits au langage scientifique. Ce qui n'est pas le cas des autres traditions, des autres cultures, qui n'ont eu aucun problème à recevoir le langage scientifique sans avoir à se poser des questions fondamentales par rapport à leurs propres croyances qui les définiraient, puisque ce n'est pas ça qui les définit, justement. Alors, par contre, évidemment, en Occident, eh bien, un vide s'est produit du point de vue de la vie intérieure, en réalité, que beaucoup de gens cherchent à remplacer par quelque chose qui va remplacer justement l'hypothèse inutile, mais sans devenir l'hypothèse inutile. C'est pour ça que je ne parlerai pas là de la foi, parce que en réalité la foi c'est devenu, à propos des croyances justement, un phénomène strictement individuel, et un phénomène mystérieux en particulier, parce que personne ne peut savoir pourquoi il croit en Dieu éventuellement, ou pourquoi il n'y croit pas. C'est un phénomène individuel. D'ailleurs, Wittgenstein, à propos des croyances en général, eh bien, on arrive à dire que la croyance religieuse est un phénomène tellement particulier qu'on ne devrait même pas l'appeler une croyance, alors que nous sommes déterminés par tout un tas d'autres croyances dans notre vie de tous les jours. Nous croyons d'abord en général que ma main, par exemple, c'est bien la mienne. Bon, et puis dans certains états pathologiques, ben, ça n'est plus le cas. Nous croyons évidemment que le soleil va se lever demain, bon, etc. Et tandis que la croyance religieuse, eh bien, n'a pas le même statut. Elle est devenue justement un phénomène intime. Alors effectivement, que la foi semble désigner, mais de façon encore plus mystérieuse, si vous voulez, dans la mesure où elle conduit à des croyances. Alors, les substituts, eh bien, ils n'ont pas tous ces mêmes caractères-là, quoique ils en prennent quelques-uns. Parce que les substituts sont d'abord des idéologies. Des idéologies aussi bien philosophiques, morales que politiques, qui comblent d'une certaine façon le manque de l'hypothèse inutile servait autrefois, si vous voulez, à ceux pour lesquels la question ne se posait probablement pas, quoi. C'est en ce sens-là, je crois, qu'on peut dire que la religion n'a pas disparu. Et il y a effectivement un retour des religions, mais un retour des religions, y compris en Occident, mais c'est des religions transformées, si vous voulez, c'est des religions adaptées en quelque sorte.
Des religions séculières aussi.
Les religions séculières, particulièrement, ben justement, quand il s'agit d'idéologie ou d'engagement politique, par exemple, évidemment. Et alors, ce qui est terrible, et même d'une certaine façon assez dramatique, c'est qu'actuellement, alors pour le coup, le règne des réseaux sociaux ne fait qu'amplifier ce phénomène-là, en supprimant toute forme de rationalité, de la notion même de vérité disparaît, etc. Bon, ce qui est évidemment tout à fait, vraiment, à mon avis, un des drames, sinon le drame fondamental de l'actualité. Je ne dirais pas de la modernité, mais de l'actualité, vraiment.
La foi n'a pas disparu, ni le sacré, mais contrairement à la foi qui réinstalle Dieu dans l'intimité personnelle, il peut exister un sacré sans Dieu, c'est votre expression, un sacré laïque. Vous écrivez « Il se trouve que le monde du rêve et de l'imagination, la vie affective en général, produisent aussi des expériences de sacré sans Dieu. Et vous faites la distinction entre le sacré, sacer en latin, et saint, sanctus en latin. Et ça, ça mérite vraiment un commentaire, Henri Atlan.
Eh bien oui, parce que si vous voulez, le sacré sans Dieu, eh bien, il existe. Et les retours de la religion qui tentent de combler le vide en question de l'hypothèse inutile, eh bien, il se fait pas toujours sous forme de sacré, mais entre autres aussi sous forme de sacré pour certains. Alors, quel sacré? Et là, pour le coup, il y a un problème de traduction entre l'hébreu et le français, en ce sens que l'hébreu Kodesh ou Kadosh a un double sens, exactement comme le sacer latin. C'est-à-dire qu'il peut exprimer quelque chose de fantastique, de très élevé, ou au contraire un mal, comme par exemple dans le sacré latin romain, qui permettait au père de famille de tuer les bébés, etc., tout cela au nom du sacer. Alors que le français fait une distinction entre sacré et saint. Or, cette distinction-là n'existe pas en hébreu. Le mot hébreu réunit les deux notions.
C'est-à-dire à la fois la notion positive et la notion négative.
Absolument.
Vous pouvez donner un exemple de sacré sans Dieu qui revient dans les substituts ?
Ah ben énorme ! C'est-à-dire que, bon, d'abord, la notion qui a été découverte par Rudolf Otto, qui a écrit tout un livre là-dessus, mais en anglais cette fois-ci, et où, en effet, qui était un protestant convaincu, évidemment, mais qui voyageait beaucoup, qui a observé partout où il passait qu'il existait une espèce de phénomène collectif, mais aussi intériorisé par les individus, qu'il a appelé le noumen, et qui était en réalité pour lui un phénomène tout à fait universel, qui simplement était exprimé après, alors même que toutes ces manifestations-là du noumen, dans tous les peuples et les peuplades qu'il a rencontrés, évidemment, qui chacun le dénommait d'une autre façon, y compris chez les mystiques, notamment chrétiens, qui aussi décrivaient ce phénomène-là, tous de la même façon. C'est-à-dire un phénomène universel qu'on retrouvait partout, et puis avec les mêmes caractéristiques, par exemple, du fait que c'était indescriptible, c'était des expériences de vision ou d'audition, etc., mais indescriptible. Mais tout avait les mêmes caractères, quoi. Un auteur contemporain qui s'appelle Michel Hulin, qui a écrit là-dessus, un livre entier qui s'appelle « La mystique sauvage », dans laquelle une mystique sans Dieu, en l'occurrence, parce que évidemment, on l'a trouvé dans des peuplades où la notion même de Dieu, cette mystique sauvage, eh bien, était décrite par ces expériences-là, qui étaient communes aussi bien à Thérèse d'Avila qu'au peuple d'une peuplade d'Amazonie, par exemple, mais dont les mots pour le dire, alors c'était même indicible, mais il existe des bibliothèques entières qui contiennent des mots sur des choses indicibles. Mais ce qui était différent, c'était les mots pour le dire, justement. C'était le même phénomène, mais les personnes en question essayaient de le décrire, eh bien, ils utilisaient forcément les mots de leur langage. Et ce que Michel Hulin, donc l'auteur de ce livre, décrivait comme les mots de la tribu.
Nous fêtons les 120 ans de la loi de la séparation de l'Église et de l'État, c'est la question de la laïcité. Est-ce que vous pensez que votre position d'athéisme éclairé peut aider à mieux comprendre ou cerner ce qu'est la laïcité?
Ah mais écoutez, moi j'espère, je veux bien, mais j'en suis pas persuadé, parce que, ne serait-ce que parce que la laïcité d'abord est un phénomène strictement français, est différent, en effet, des rapports entre la religion et l'État, tels qu'ils sont vécus en anglais, si vous voulez, chez les Américains et les anglophones en général. Ben, c'est pas du tout la même chose. Alors, maintenant, la laïcité française, bon, ben, je pense que pour ce qui concerne, en tout cas, le judaïsme, ça me semble assez simple, si vous voulez, dans la mesure où le judaïsme, en tant que religion ritualiste, eh bien, a réglé la question par un principe qui est que notre loi, c'est la loi du pays.
C'est-à-dire que s'il y a une contradiction entre la loi à l'intérieur du judaïsme et la loi du pays, c'est la loi du pays.
La loi du judaïsme doit s'adapter.
Doit s'acculturer, comme on dit.
Alors, quand on dit s'acculturer, ou peut-être s'adapter aussi, c'est un peu négatif. Ça veut dire que l'acculturation en question est la conséquence essentiellement de la traduction. Parce que ça, c'est un des bienfaits que les Juifs ont reçus de la Révolution française, qui leur a accordé une citoyenneté totale, que Napoléon a institué par l'institution, justement, d'organisation sociale sur le modèle du culte catholique, sur lequel lui-même il avait créé un concordat avec le pape, mais en l'absence de pape au judaïsme, il a forcé en quelque sorte une assemblée de rabbins appelée le Sanhédrin pour se débrouiller, pour organiser le juif sur le même modèle. Ce qui a évidemment été un grand avantage, dont nous profitons encore aujourd'hui, si vous voulez, qui est celui de l'assimilation, mais aussi avec le prix à payer, qui était un certain degré d'acculturation à cause de la nécessité de traduire au maximum des notions à l'origine en hébreu ou en araméen et qui perdent beaucoup de leur signification quand elles sont traduites en français.
Qu'est-ce qu'elle a permis, l'assimilation ?
Ben, elle a permis l'ouverture sur la culture mondiale.
Merci Henri Atlan pour cette conversation passionnante que je vous propose de poursuivre la semaine prochaine. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé, L'athéisme éclairé, l'hypothèse inutile, des lumières au monde hébraïque. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci encore Henri Atlan.
Ben c'est moi qui vous remercie, Marc-Alain Waknin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Raphaël Rousseau, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.